hors les murs.
La maison des écrivains et de la littérature.
Rencontre littéraire au Petit Palais. La poésie pour quoi faire, Valère Novarina. Un entretien avec Jean-Michel Maulpois, écrivain, professeur à Paris-Ouest.
Je vous remercie d'être venus nombreux à cette rencontre avec Valère Novarina. Alors, permettez-moi de lire quelques lignes rapidement. Ce sera une manière de souligner la circonstance qui donne lieu à cette rencontre. Écoutez, mes chers pieds, écoutez. Je lève cette énième patte à la santé des planches, c'est-à-dire que je souhaite que nos planchers, au lieu qu'ils nous enfouissent, nous soutiennent et nous portent bien dressés jusqu'au bout. Chantez, fidèles jambes, progressez de la plante, arpentez le terrain. Qui a osé, madame, insulter nos satanés compas? Ils sont excellents. Chaque patte, pour prix de l'effort méritant, récolte à chaque fois aisément 24 à 30 centimètres. Persévérez, membres du bas, entêtez-vous à force de remarcher, finirez bien par obtenir des locaux, des endroits, des pays, des régions. Galop toujours courir, et les yeux, je vous interdis de vous coudre, entendu? Et vous, allez, Adramélèche, comptez-nous rapidement vos souvenirs et vues sur le baptême des porcs. Vous le pouvez, vos mâchoires sont puissantes. Je ne peux pas la dire. Si j'accueille en effet aujourd'hui Valère Novarina dans le cadre de ce séminaire, c'est à l'occasion de la reprise au Théâtre de la Bastille, dans deux jours, à 19h je crois, du 20 novembre au 11 décembre, de ce texte dont je viens de lire un extrait, qui vient de reparaître chez POL, le monologue d'Adramélèche, un texte qu'André Marcon avait joué pour la première fois en juillet 1985 et qui est extrait du Babil des classes dangereuses dont il faisait partie à l'origine. Mais c'est également l'occasion d'évoquer deux livres parus dans le courant de cette année. Pardonnez-moi de faire non pas de la publicité, mais simplement donner à voir ces ouvrages, le Théâtre des Paroles. Pas le Théâtre des Paroles, je ne l'ai pas pris avec moi, c'est L'Envers de l'Esprit, il est là, aux éditions POL. Et puis un petit livre en poche dans la collection Folio Théâtre, c'est L'Acte Inconnu, donc aux éditions Gallimard, réédition d'un texte de 2007, une édition qui est présentée, établie et annotée par Michel Corvin. Alors j'ai regardé dans cette édition, notamment la chronologie, et j'y ai vu et revu apparaître souvent les origines, les liens, les origines savoyardes et les liens de Valère Novarina avec un pays, un territoire qui est la Savoie. Vous êtes un Savoyard, je commence par là. Ça n'est pas sans importance parce que vous êtes familier des marches en montagne, des ascensions, des voyages à pied, aussi bien que du patois local et de la vie villageoise, comme en témoigne d'ailleurs la réédition récente d'un autre livre, La Loterie Pierrot, qui est un inventaire de sobriquets de la région du Chablais. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Cette origine savoyarde, elle a son importance, notamment quand on sait la place prise par le souffle, la respiration, dans votre réflexion sur le travail des acteurs. Vous dites « écrire pour des acteurs pneumatiques ». Et vous rappelez dans votre lettre aux acteurs que dans la littérature arabe, je vous cite, les points dans les vieux manuscrits arabes sont marqués par des soleils respiratoires. Et vous écrivez ceci, respirer, poumonner. Poumonner, ça ne veut pas dire déplacer de l'air, gueuler, se gonfler, mais au contraire avoir une véritable économie respiratoire, user tout l'air qu'on prend, tout le dépenser avant d'en reprendre, aller au bout du souffle jusqu'à la constriction de l'asphyxie finale du point de la phrase, du point qu'on a au côté après la course. Donc, importance à bien des égards de cette origine chablaisienne, je ne sais pas si l'on peut employer ce qualificatif. Importance aussi parce que la langue ne résonne pas de la même façon selon qu'on la parle ici ou là. Et je voudrais là encore vous citer, c'est toujours un plaisir que de vous citer, notamment cette phrase, ces quelques phrases de la loterie Pierrot. L'organe du médecin, c'est l'oreille. Le docteur Despraz écoute, il ausculte notre langue, il entend le français depuis le Chablais, car le français s'entend toujours d'un lieu, d'un théâtre particulier. Il se parle, s'écoute et miroite autrement selon que l'on est à Sète, à Payerne, à Binche, à Gaspé, à Morzine, à Lafayette, à La Chaux-de-Fonds, à Chicoutimi, à Rouen, à Saint-Étienne, à Lillet-à-Malheur ou à Trois-Palmiers. Une langue, c'est comme un corps. Il y a la surface visible et toutes les choses cachées sous la peau, les humeurs, les viscères, les fluides et les échanges mystérieux des organes. Alors, il est d'usage de distinguer dans votre œuvre, Valère Novarina, trois ensembles ou trois catégories de textes. Les œuvres directement théâtrales, l'atelier volant, Vous qui habitez le temps, l'opérette imaginaire, la scène, l'espace furieux, l'acte inconnu. Ce que vous appelez le théâtre utopique et qui consiste en des romans surdialogués, des monologues à plusieurs voix, des poésies en actes, je cite le drame de la vie, le discours aux animaux, la chair de l'homme, et puis les œuvres théoriques qui réfléchissent sur la parole, sur l'acteur, sur la scène, sur l'esprit. Je cite ce petit volume, le théâtre des paroles, dans lequel sont repris toute une série de textes divers, inspirés notamment par une réflexion sur le théâtre, pour Louis de Funès, Pendant la matière, Lumière du corps, L'envers de l'esprit, le plus récent, qu'on citait tout à l'heure et qui est paru cette année. Bien sûr, vous êtes surtout connu par les textes que vous avez donnés au théâtre et dont vous avez parfois assuré vous-même la mise en scène, aussi bien que les décors. On en reparlera. Vous me disiez tout à l'heure que le monologue d'Adra Mélèche, qui va être joué dans deux jours, allait l'être dans un espace envahi par vos peintures. Donc, vous avez vous-même assuré la mise en scène d'un certain nombre de vos textes. Vous en avez conçu les décors. Et pourtant, ce n'est pas le terme de metteur en scène que je vais employer pour vous désigner. Ce n'est pas non plus le terme de dramaturge. Ce n'est pas non plus le terme d'auteur dramatique qui me vient à l'esprit pour vous présenter. Il y va d'autre chose dans votre œuvre que de la seule composition de pièces de théâtre. C'est peut-être pour ça aussi que je vous invite comme poète aujourd'hui, d'une certaine manière, en tout cas comme écrivain. Dans Le drame de la langue française, vous annonciez vous-même écrire non plus pour le théâtre, mais vers le théâtre, avec l'acteur comme objet de désir. Nous y reviendrons, je pense, tout à l'heure dans notre échange. Votre œuvre, en fait, a pour objet le mystère de parler, montrer le drame de la parole, le drame respiratoire, le drame de notre respiration dans la langue. Vous montrez ce drame, vous le donnez, pour reprendre un terme que vous aimez à propos du théâtre, on donne une pièce, vous le donnez dans vos textes de différentes façons. Vous le donnez aussi bien dans de longues proses, dans de longues coulées de prose, que dans des scènes, des tournoiements de paroles sur la scène. Votre œuvre s'inscrit d'une certaine manière entre la question d'Adam qui ouvre le drame de la vie, d'où vient qu'on parle, que la viande s'exprime, question inaugurale d'une certaine manière, d'où vient qu'on parle, et l'ultime proposition du Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, telle que vous la renversez, cette proposition, en disant « ce dont on ne peut pas parler, c'est cela qu'il faut dire ». Votre réflexion sur la langue prend donc en considération cette expérience singulière que fait chaque parlant, chaque parleur d'ici, d'un voyage dans la parole, pour reprendre une de vos formules, un voyage que chacun effectue dans son propre corps, je dirais à son corps mortel défendant, comme étrange ou étranger à soi dans l'acte même par lequel il croit se dire. Nous sommes d'une certaine façon étrangers à nous-mêmes par l'acte même dans lequel nous croyons nous dire. Comment les mots existent-ils en nous? C'est un peu cette question qui est posée, reposée, illustrée, donnée et redonnée de bien des façons par vos œuvres. Alors je souhaiterais commencer cet échange par évoquer ce qui n'est ni le plus connu ni le plus lu de vous, c'est-à-dire vos textes réflexifs, vos textes théoriques. J'ai envie de reprendre à ce propos une formule de Denis Roche, vos dépôts de savoir et de technique. Dans la mesure où ces textes théoriques, ces textes critiques, réflexifs, proviennent d'une sorte de journal qui accompagne au quotidien vos écritures, ils participent d'une écriture jour après jour, une sorte de nulla dies sine linea, qui remet sans cesse sur le métier les mêmes questions, qui les creuse, qui les recreuse avec obstination. Alors on pourrait dire de ces textes qu'ils relèvent pour une part de la tradition d'une parole d'auteur ou de metteur en scène sur le théâtre, il y en a eu dans le passé, mais en réalité le théâtre ou l'expérience théâtrale ici le théâtre se commente moins comme genre que comme lieu et moment d'une expérience très spécifique de la parole. Ce sont des textes très écrits, très soignés, qui passent par des notions clés, la parole, le corps, l'esprit, et qui, d'une certaine manière, établissent votre poétique. C'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, votre poétique propre. Alors peut-être pourriez-vous commencer par nous lire un de ces textes. Je crois que vous avez apporté l'envers de l'esprit.
J'avais l'idée de me réfugier derrière deux lectures avant de parler. Deux lectures provenant de ce livre, L'envers de l'esprit. Premier texte assez court et une deuxième lecture un peu plus longue. C'est un texte qui est au début, qui parle justement, puisque vous avez parlé vous avez mentionné que vendredi commençait le monologue d'Adramelech à la Bastille par Jean-Yves Michaud. Donc c'est un texte qui parle du contact. Du point de contact entre l'acteur et le texte, et qui parle beaucoup d'un grand acteur qui s'appelle Daniel Znick. Une communication mystérieuse palpite en morse dans la ponctuation. Le dialogue avec l'acteur, comme avec le lecteur, a lieu avec les mots, mais aussi avec le silence de la typographie et les signes entre et en dessous. Mais ces signes ne disent en rien comment l'acteur doit respirer. L'acteur est le seul maître d'une charpente invisible du souffle qui s'échafaude patiemment pour que les mots soient sans cesse renversés, ne soient pas à l'arrêt, figés, ne s'immobilisent pas en idole. Par le travail patient, incarné et vide de l'acteur, le théâtre est le bon lieu d'une utilisation non fétichiste du langage. La respiration n'est dictée à personne. Elle est laissée libre, comme l'intelligence du texte, son devenir, son passage en dialogue. L'acteur ouvre le mutus liber, tient bien ouvert devant lui le livre muet de la ponctuation. Un point, tiret, deux points, virgule, parenthèse, point virgule, exclamation, et les italiques, alinéa, paragraphe, et les noms des personnages. Et c'est ainsi, peu à peu, par les balises, par les cairns d'un chemin chaotique, qu'il atteint la seule chose qui importe, l'intelligence du mouvement, le phrasé, l'économie du texte, la science du jeu de force dont la page est le théâtre. Le reste se fera peu à peu, par le corps, sans qu'on lui demande rien. C'est un très savant animal. Le plus important, c'est le phrasé, la démarche verbale. Si nous écoutons bien, toute la danse est déjà sur la page. La ponctuation touche l'acteur à distance. Elle contient des messages cryptés, parfois déchiffrables par un seul. C'est une source très directe d'énergie, un faisceau d'impulsions, et sur la page, comme un reste de la graphie et de la respiration de celui qui a écrit, un boisseau de flèches.
une volée de traits, des pas encore visibles sur le sol. Par le texte, par la lettre muette du livre, je confie à l'acteur Daniel Znick ce que je n'oserais dire en face à qui que ce soit. Je sais que c'est un voyageur qui s'avancera très loin, hors d'homme, hors des sentiers théâtralement répertoriés, et ira hors des passages reconnus. Un très grand déconstructeur et un décompositeur d'hommes comme je les aime. Il n'hésite pas sur scène à aller profondément ailleurs que dans l'homme. Il va à la marionnette. Il s'aventure dans l'animal. Le grand acteur n'a sur l'être humain aucune opinion. Il jette tout. Znick est un rythmicien, un casseur de monotonie et un saisissant percussionniste. Il y a au fond de lui une fontaine de métamorphoses sans fin et du courage pour briser toutes les représentations humaines répertoriées et autour de nous serinées en litanie. Il y a, dans sa trajectoire, des sorties d'humanité, comme on sort de piste, qui m'étonnent et que je ne peux me permettre qu'au travers de lui. Écrivant pour lui, devant lui, agençant des obstacles, je me sens infiniment libre, comme si j'écrivais pour Liszt, Stravinsky, Sofronitsky, Scriabine, Albert Fratellini, Grock, Picasso. C'est un acteur capable de tout, suicidaire et victorieux comme le bon trapéziste. C'est un très grand nageur. Je l'ai vu faire des kilomètres vers le large dans l'eau glacée. C'est de là qu'il a l'instinct de prendre le texte comme on prend une onde avec laquelle combattre, avec laquelle jouer, se laisser porter, lâcher prise pour avancer. Il nage dans les courants du texte, ses flux passent par les torrents et l'eau qui dort. Znick sait de ses mains que le langage est un fluide qui se répand dans l'espace. Bien, je reprends un peu plus loin. À propos du travail avec l'acteur, beaucoup de choses se disent en deux syllabes. Dans l'espace furieux, on voit Znick se pencher vers le sol tout bas et sortir très lentement un drap qui dépasse du plateau. Je me souviens, lors d'un dernier filage salle Richelieu, lui avoir lancé très vite, sans l'interrompre, « Colmar !» Daniel a immédiatement compris qu'il fallait lancer le drap comme le linceul du retable d'Isenheim et il le fit jaillir aussitôt en fouettant l'air pour faire voler la mort en éclats. Avec un animal de la force et de la taille de Daniel, je peux planter mes piquets de slalom encore plus rapprochés, passer soudain d'un ample slalom géant à un slalom spécial très serré, avec saut de bosse. Il y a des bonds que seul Daniel Znick peut bondir, des chutes victorieuses dont lui seul peut calculer l'exact tempo. Je trace par anticipation beaucoup de figures que seul le corps de Daniel Znick peut écrire. Souvent, le personnage qu'il joue, le chercheur de Falbala, le personnage du corps, l'homme d'Outressa, le muet, sosie, souvent ce personnage prononce un instant son nom, Daniel Znick. Mais le nom véritable de Daniel Znick, comme celui de tous les acteurs, et comme le mien véritable et le nôtre à nous tous, est personne. Ça, c'était le bout du premier texte. J'ai écrit Znick vivait. Znick était vivant. Mm-hmm. Et voilà, je l'ai fini une fois. Après sa mort. Mais... Est-ce que je lis tout de suite cet autre texte qui est plus long ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Comme vous voulez, je ne sais pas trop quoi dire. Je suis.
Est-ce que bon, on peut en parler 5 minutes.
Un petit monsieur, oui.
Un donc petit c'était oui, c'est tout à fait essentiel la ponctuation. La ponctuation. Je suis. Il y a une Bible chez Bayard qui était traduite par les écrivains. Je me suis un moment posé la question, mais je n'ai pas vérifié si j'étais le seul à mettre des points virgules. Le point virgule a complètement disparu et c'était une chose tout à fait extraordinaire. Et j'ai pris conscience de l'importance du point virgule, non pas en lisant Mallarmé ou telle revue, etc., mais à Thonon, j'étais chez des amis, un critique, André Clavel, et Ce qui est bien à la campagne, c'est qu'on voit des gens d'une autre espèce que son espèce. On rencontre, donc il y avait quelqu'un là qui était un flic et qui en mangeait une fondue avec lui. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? J'écris un livre. Est-ce qu'il y a des points-virgules ? J'espère qu'il y a beaucoup de points-virgules. Je dis, pourquoi tu me dis ça ? Je n'ai pas pris conscience du point-virgule. Pourquoi tu me dis ça ? Il me dit, c'est un flic, le point-virgule, c'est le rebond de la pensée. Il a été volé une mobilette, tac, tac, par un individu, par un point-virgule, qui, etc. Donc j'ai vraiment pris conscience réellement du point-virgule à ce moment-là. Et la ponctuation, les tirets, les points, les deux points, dont parfois j'abuse, j'ai tendance à surponctuer. Les italiques, c'est une façon de communiquer de très près avec l'acteur. Et souvent, lorsqu'il y a des fautes, par exemple, hier, j'étais en train de répéter avec Jean-Yves Michaud, il y a un moment où il y avait un truc pas très clair, j'ai regardé la ponctuation de 1974 de Melek qui n'était pas si soignée qu'aujourd'hui. C'est tout à fait capital. Et lorsque je travaillais avec Pascal Homovert, avec qui j'ai beaucoup travaillé pour préparer le texte final de l'acte inconnu, à un moment, il trouvait des signes bizarres sur des trucs. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ces signes-là ? C'est des fautes de... Non, je lui dis, Znik comprendra. J'ai tordu un mot et je sais qu'il y a une communication directe avec le... Parce que dans la ponctuation, il y a l'impulsion. Maintenant, il ne faut pas s'en faire une religion non plus. Voilà, de même qu'il faut oublier les piquets de slalom pour bien slalomer et oublier les cairns pour voyager à pied. Donc, je ne parle pas de la ponctuation aux acteurs non plus. Mais ils ressentent aussi la page. Les acteurs ont une surlecture du texte. Michel Bodina me disait qu'il voyait... D'abord, la plupart des acteurs voient à quelle page c'est dans le livre. Ils voient la page de gauche, ils voient le texte en même temps. Et il voit le texte et il voit la chose. Marcon, quand il jouait, me disait, quand je dis un chien bleu, je vois le mot chien bleu et il faut que je voie le chien bleu. Et en effet, s'il ne voit pas le chien bleu, personne ne le verra. On aura beau dire chien bleu de la même façon, l'acteur doit voir, l'acteur doit tout voir. Et le public verra. Si l'acteur ne voit rien, le public entendra des mots. Oui. Donc l'acteur comme surlecteur.
Oui. Mais c'est...
Alors, et l'acteur comme lecteur, parce que l'énorme travail, j'ai vu Marcon travailler, il devait jouer dans une pièce de Claudel Laville, il était enfermé, il était à la campagne dans un endroit que j'avais, il y avait un âne qui l'écoutait dans le champ, il lisait toute la journée Laville à cet âne qui passait sa tête comme ça par la fenêtre. Donc l'appropriation peu à peu, lente, sans surtout pas se précipiter pour faire du théâtre. Il y a une phrase de Jarry que je cite souvent aux acteurs, enfin c'est le titre d'un article de Jarry à propos du Burois qui est magnifique, c'est « De l'inutilité du théâtre au théâtre ». Donc voilà, la lecture. C'est difficile de lire.
L'artiste, oui, de la lecture.
Et il y a parfois des bons acteurs qui sont des mauvais lecteurs, etc. Et là, j'ai eu une expérience de lettres aux acteurs lue par Podalides. C'est un acteur extraordinaire. J'avais l'impression de quelqu'un qui, avec une lampe, entrait dans la caverne ou dans la crypte et montait tel chapiteau sculpté, telle flaque d'eau. Une exploration du corps du texte incroyable. Une intelligence, l'intelligence du texte.
Oui, alors
pour
donc,
comprendre son architecture.
Oui. Mais en même temps, une des choses sur lesquelles vous insistez beaucoup, c'est là-dessus d'ailleurs que vous avez terminé tout à l'heure, c'est sur son effacement comme sujet. Il n'est personne.
Oui.
Et ça semble être la condition pour être cet artiste. Vous le comparez parfois à un compositeur ou à un peintre. C'est avant tout un artiste de la lecture. Un artiste de la lecture, non pas au sens d'une capacité à lire qui serait au-dessus de la normale, mais d'une entente, d'une intelligence de la langue et de la matière du texte. Donc il semblerait que pour vous, la condition pour accéder à cette qualité que vous dites,
oui,
c'est de s'effacer comme sujet.
Mais je pense que si on mettait bout à bout, dans un travail à l'université par exemple, toutes les théories de l'acteur, si on mettait bout à bout Diderot, Zéami, Brecht, Louis de Funès, Navarina, Jouvet, etc., tout tourne autour de la même chose, c'est l'effacement de l'acteur, le masque blanc, le retrait humain.
Ouais.
Moi, je l'exprime comme ça. C'est un lieu où on peut, un instant, ne plus faire l'homme. On est obligé de faire l'homme tout le temps, maintenant, partout, dans la rue. Ouais. Donc il y a une sorte de retrait d'humanité dans le théâtre. C'est le lieu du... Dans le fond, le lieu du désengagement aussi.
Ouais. Se retirer de soi-même, mais
oui,
en
oui,
temps,
mais
pour
malheureusement,
porter
il y avait une très belle chose que je voulais vous amener, mais j'ai oublié une phrase de Jarry aussi. Marcon, quand il jouait le monologue d'Adramelec, me disait tout le temps « minéral, minéral ». Bon, je prenais ça comme des énigmes de la pitié Marcon, parce que les acteurs parlent très peu souvent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'ai trouvé une phrase extraordinaire de Jarry, où Jarry dit que l'acteur, enfin malheureusement je ne l'ai pas amené, donc je vais la paraphraser bêtement, que l'acteur n'offre pas son visage, mais sa tête de mort. La minéralité de son crâne, c'est ça qu'il apporte au public. Il apporte son crâne au public. C'est une phrase magnifique, malheureusement, je l'ai oubliée. Donc ça rejoint aussi cette... Vous vouliez apporter quelque chose de Mallarmé sur le
Pierrot,
mais disons la face blanche. La face blanche et la face réversible. Le Janus comme dieu du théâtre aussi. Enfin voilà, c'est autour de choses comme ça qui sont des ruminations sur l'énergie. Sur l'énergie du vide et l'énergie du renversement, c'est des choses qu'on touche au théâtre vraiment,
oui.
qu'on rate tout le temps et qu'on approche parfois, mais ça tourne autour de choses très concrètes, de sensations des énergies.
Vous dites aussi qu'il a une manière de rejoindre l'animalité, il sort de l'humain et il rejoint, vous dites au théâtre, il faut être des animaux, interroger non notre humanité mais notre pantinitude. Notre état de pantin.
Oui, Pinocchio. Comme mythe fondamental, autant que Faust ou tout ce qu'on veut.
Alors j'étais frappé, parce que finalement ça a coupé court à une remarque que je voulais faire sur ce que j'appelle dans votre œuvre les régimes différents de l'écriture. Il y a d'un côté ces coulées de langue interminables, ces listes, cette espèce de flux auquel vous semblez obéir, le flux de langage, et puis il y a cette parole tranchante d'une certaine façon qui est celle davantage des essais. Vous me direz, on l'entend aussi sur la scène, il y a aussi des aphorismes percutants qui zèbrent comme ça la parole que vous portez sur les planches. Mais j'étais frappé par le fait que lorsque vous lisez, vous lisez de la même façon, sans doute, l'envers de l'esprit et tel texte destiné au théâtre. Votre lecture à vous est la même. Vous faites entendre la langue de la même façon, en tout cas oralement. Vous n'établissez pas de distinction ou vous semblez même prendre soin de porter de la même façon exactement devant le public un texte destiné au théâtre et un texte qui ne l'est pas. Cette façon, vous disiez vous-même à l'instant, tenant le livre bien ouvert, cette façon que vous avez de placer le livre devant vous, très singulière, je ne sais pas si peut-être que c'est quelque chose que vous ne voulez pas commenter, parce que ça fait partie de votre choix, mais c'est déroutant pour le public.
Je vois mieux
si
je suis vous voyez stigmate mieux. Et je vois aussi mieux. En plus, ça coupe pas le contact.
D'accord.
Mais je vois mieux si c'est un peu comme ça.
Vous voyez mieux comme ça. Donc ouais. C'est un problème optique au départ.
Mais aussi, en même temps, c'est pas mal parce que si je dis comme ça, si je dis comme ça, voilà, j'ai une sorte d'ouverture. Il faut ouvrir. Tout le monde est fermé, les spectateurs. Ouais. Sont fermés quand ils arrivent, les acteurs aussi, chacun est replié. Il y a quelque chose qu'il faut ouvrir au théâtre. Lorsque Vincent Baudrier m'a proposé de faire quelque chose à Avignon la dernière fois, j'ai visité beaucoup de lieux et finalement il y en a deux. Alors je lui dis qu'il y en a deux où j'aimerais aller, où j'ai pas fréquenté. La carrière Boulbon, le rocher, la nature, la montagne, le bloc, la minéralité, voilà. Et la cour d'honneur, mais là, ce n'est pas du tout la cour d'honneur qui m'intéresse, je ne le trouve pas extraordinaire, ce n'est pas les vieilles pierres, c'est le mur humain, la muraille humaine, les 2000, ils sont là comme ça, en face. Ça fait peur, mais les acteurs reçoivent quelque chose, et je dis, il faut leur envoyer des flèches, il faut les ouvrir, et pas tous les ouvrir en même temps, il faut les ouvrir un à un, par des choses, que le spectateur reçoit des flèches qui partent,
du plateau, mais c'est pas des comme à la bataille, je sais pas, je dis d'Azincourt où toutes les flèches partent en même temps. C'est des flèches d'Indiens qui partent comme ça dans tous les sens, et chacun est percé un endroit précis de telle chose qui lui rappelle un mot qu'il a entendu dans son enfance, le surnom de son arrière-grand-père. Il y a des frappes individuelles, et c'est très beau le théâtre lorsque le public n'est pas pris comme un public de meeting à qui on veut faire partager ceci, amener à telle conclusion ou déplorer cela tous ensemble, mais lorsque c'est que des gens individuels qui réagissent à quelque chose. Et j'ai toujours l'image des vieux disques que j'ai de musique arabe enregistrée au Caire en 1920, etc., où on entend des petits cris, des petits soupirs de ceux qui écoutent. C'est pas des acclamations de rugby, mais c'est des gens qui sont touchés individuellement. Ça se produit parfois au théâtre, rarement, mais parfois, et c'est extraordinaire. Et l'un rit, l'autre pleure. L'émotion n'est pas obligée, elle n'est pas obligatoire, l'émotion est libre. Et le fait que cette idée qu'ils reçoivent tous des flèches, ça m'a amené à me dire s'il fallait choisir, après tout, un saint patron du spectateur de théâtre, serait Saint-Sébastien. Est-ce que je me débarrasse de mon autre lecture maintenant ou
plus si tard? Vous voulez, je sais que vous
parce
voulez...
Parce que je suis préoccupé, je...
Voilà,
je
ça vous traque, préoccupe donc.
Non, peut-être tout à l'heure.
Non, débarrassez-vous-en, c'est pas...
Je sais pas si je dirais en entier. C'est un texte un peu... Donc c'est le texte qui termine l'envers de l'esprit. Je ne l'ai jamais lu. C'est pour ça aussi que je voulais le lire une fois, donc je vais me tromper, etc. Et ça s'appelle une langue maternelle incompréhensible. Ma mère, Manon Trolliet, née le 20 avril 1914 au bord du lac de Neuchâtel, nous conduisait souvent, lorsque nous étions enfants, mon frère Patrice et moi, auprès du piano de tante Mathilde, pour nous jouer sur de vieilles partitions reliées dont nous apprenions à tourner les pages, la marche turque, la polonaise héroïque, la sonate au clair de lune, et enfin, c'est le moment que nous attendions, nous chanter en s'accompagnant au clavier cinq chansons de Théodore Botrel, La lettre du gabier, La grande câline, La pimpolaise, Le petit Grégoire, Le grand lustucru. Lorsque mon père était absent, le récital allait un peu plus loin. Il s'achevait par la chanson hongroise. Ma mère ne parlait pas cette langue, mais savait toujours cette chanson, Kishtvan, un jeune étudiant qu'elle avait connu à Genève lorsqu'elle était toute jeune fille, avait composé pour elle. Il l'avait demandé en mariage. Ma mère n'avait pas 18 ans, mon grand-père avait refusé. Istvan était retourné en Hongrie, et bien des années plus tard, ma mère avait appris qu'il était mort à Auschwitz. Elle chantait cette chanson poignante et hermétique, avec une grande expressivité et une voix juste mais un peu voilée. Son professeur lui avait, disait-elle, cassé les cordes vocales lors de cours trop intensifs au conservatoire de Genève. Elle avait depuis renoncé à chanter et était devenue comédienne. Je ne sais pas l'effet que cette chanson faisait sur mon frère, mais elle m'entraînait chaque fois dans une rêverie profonde. Elle me disait tout à la fois que j'aurais pu être hongrois, être juif et ne pas être, puisqu'Istvan était mort en déportation avant ma naissance. La Hongrie devint pour moi une sorte de secrète seconde patrie, et la langue hongroise, de toutes les langues étrangères, celle qui me touchait immédiatement et profondément comme une langue maternelle incompréhensible. Ma mère ne savait de hongrois que les chiffres, cette chanson d'Istvan et le Notre Père. Les paroles de la chanson devenaient de moins en moins sûres. Elle continuait cependant à nous la chanter avec grande confiance, mais dans une sorte de hongrois à la dérive, presque une langue en perdition. L'émotion rejoignait les dernières strophes des chansons de Botrel, qui venaient souvent s'achever par un naufrage violent et doux. Le hongrois devint ma langue étrangère, peut-être même ma langue véritable, celle que j'aurais parlé si j'avais été le fils d'Istvan, le fiancé fantôme. Une rêverie négative s'est secrètement développée à partir de là. Le hongrois incompréhensible de ma mère était ma langue manquante, l'ombre de la langue que j'aurais pu parler si je n'avais pas existé. Tout enfant, j'avais entendu parler de la pusta. Je connaissais les noms de Bartok Bela, de Cluj-Napoca, de Bangban. Tout ce qui venait de Hongrie me touchait au plus intime. Regardant longuement le Léman, je le trouvais beau, mais un peu plus petit que le lac Balaton. Plus tard, je me vois écoutant chaque soir après l'école 6, 10, 12 fois de suite, en ramenant chaque fois au même sillon un disque 78 tours, le bras de l'électrophone, écouter un passage de 5 secondes de la deuxième rhapsodie hongroise dans la version pour orchestre où tintait le triangle. Je capturais cet instant à perpétuité. Je dois à Liszt mon premier ravissement musical. Je saute une ou deux pages. Le hongrois, vu par un enfant. Une langue qu'il ne comprend pas, mais qu'il voit chanter. Une île du langage. La langue à un. Une langue orpheline et une langue amniotique. La langue qui ne résonne nulle part. Un corps devant soi, une onde. Une langue dispensée du fardeau de la communication et qui nous rappelle à chaque instant, nous fait concrètement toucher tout au fond du langage, au fond du son de chaque syllabe mordue, entendue, mâchée et bue, notre premier étonnement de parler. Est-ce à partir de là que je commençais à échafauder une sorte de théorie originelle enfantine liant les forces du langage à celles de la géologie et faisant, une bonne fois pour toutes, de la linguistique une branche de la physique des fluides. Est-ce de là que je tiens la certitude que les langues n'obéissent à aucune loi que les humains puissent formuler, mais qu'elles sont pour toujours des bêtes respiratoires à jamais imprévisibles, des animaux surprenants qui ne peuvent finalement être vus pour de bon, saisi sur le vif, que dans la cage de la scène. Le hongrois était une langue qui ne résonnait en aucune autre. Je l'entendais comme un reste de l'Atlantide, un grand morceau de terre disparue. En entendant sans comprendre, en creusant d'oreilles, je finis par apprivoiser peu à peu la singularité absolue de cette apax linguistique en Europe, et perçut dans la langue hongroise une sorte de sororité mystérieuse avec le français. Je repérais les sons semblables, le règne du « e » ouvert, partout présent dans le hongrois, où il est comme une basse continue, un bourdon toujours présent, et sa présence harmonique enfouie tout au fond du français. Je découvrais dans l'une et l'autre langue la surprenante richesse de l'éventail sonore, la même ouverture toute grande de la palette des phonèmes. Mais j'étais surtout frappé, dans l'une et l'autre langue, mais surtout dans le hongrois, par la platitude, le calme puissant des phrases, la portée du souffle, l'étendue des sons, le lac des voyelles, la longueur de la phrase se prolongeant jusqu'à une sorte de point d'orgue de la pensée. Hongrois et français s'étendent, s'épandent, se déverse, deux langues faites pour aller loin, pour aller profond, non par les soubresauts de l'accent tonique, mais par l'amplitude rythmique et la portée respiratoire. Malgré leur étrangeté radicale, leurs origines aux antipodes, il y avait entre elles un accord profond, un cours parallèle et un mouvement en miroir. J'entendais hongrois et français agir toujours d'un long phrasé, couler de même, deux langues embrassant large, prenant l'espace ample, puissante et forte, non troublée de mouvements de surface, non agitée par ces petites vagues rythmiques que ne cessent de faire l'italien, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, etc. Je comparais la Loire et le Danube. Je trouvais aux Français aussi un magistral rythme danubien. Cette intime étrangeté, comme une écoute tactile, comme un toucher sonore de la langue magyare, m'ouvrit, adolescent, l'intuition que l'Europe centrale commençait à Genève et que sur les rives du Léman, À Thonon, à Meyry, à Amphion, à Lausanne, nous étions au bord occidental de cet immense ensemble que je faisais dans mon ignorance aller au moins jusqu'à Moscou. J'y incorporais même peu à peu la Grèce, les Balkans, la Yougoslavie et l'Italie, une presqu'île plurielle, elle aussi balkanique en esprit. Je me composais peu à peu de l'Europe une mosaïque fantaisie. Je déployais des géographies imaginaires. J'entendais par esprit balkanique une souplesse de pensée et le sens de la réversibilité du réel, le goût de la complexité des choses de la vie, l'esprit biface, l'art du retournement. Cela, je le retrouvais dans les vallées des Alpes, dans toute l'Italie montueuse, séparée en vallées, morcelée en duchés, principautés, et jusqu'à la plaine russe, où je ressentais ce goût pluriel du retournement, non dans la géographie, mais dans la religion. Le vallonnement, le rebondissement tellurique, était non dans les structures de la terre, mais dans les textes et la pensée des pères grecs et des saints orientaux. Le christianisme orthodoxe me semblait plus que le romain réversible, sujet à des hauts et des bas. Mais le cœur, la source de cette cyclotymie géographique et mentale, je le plaçais dans les psaumes, tout au fond des psaumes, dans l'intériorité accidentée du roi David, tout au fond de notre corps, dans le mystère respiratoire, il y avait retournement et marque pascale mise en nous. La marche en montagne est une excellente école pour saisir comme l'esprit se retourne. Il y a un autrement, substantif désignant l'action du verbe autrer. Il y a un autrement au passage d'un col et à l'entrée, à l'envers, dans une vallée nouvelle. Et de chaque côté de la montagne, on pense et on parle légèrement autre. Veränderung. J'imaginais qu'une pensée balkanique sortant des Alpes, s'étendait sur toute l'Europe centrale et orientale et bien plus loin, du Léman à la Volga. Une façon de penser qui ne craignait pas le miroitement du réel, la complexité compliquée, la réversibilité et la jouissance et la joie et la délivrance par le pluriel. Ma mère est morte le 16 décembre 2003, veille de ce que j'appelle la Saint-Roumi. Le 17 décembre est le jour où à Konya, Iconium, en Anatolie, les derviches se rassemblent pour danser. Ma mère guérissait les brûlures, coupait le feu, comme on dit en Savoie, et elle avait trois fois dans sa vie vu des événements très lointains qu'elle ignorait, dont une noce aux Indes qui un jour lui avait été annoncée et qu'elle avait décrite la veille avec grande précision. Deux de ses ancêtres en ligne directe accusés de sorcellerie, avaient été brûlés vives à Neuchâtel au XVIIIe siècle. L'une s'appelait Péronne Clotu. Après l'ombre hongroise, je vis sur le français s'étendre d'autres ombres sœurs, lointaines et proches, ombres sûres et dedans notre langue, l'ombre du latin, l'ombre du patois savoyard, l'ombre de l'italien. Le hongrois a été la toute première de mes quatre langues étrangères maternelles. 1. Le hongrois originel. 2. Le latin difficile, où j'ai été cancre 11 ans durant, mais sans lequel jamais je ne pourrais retrouver ni le sens ni le fil du français et où il va, comme un menuisier qui travaillerait toujours de travers s'il ne savait tactilement ou par toucher mental le sens du bois. 3. L'italien. Toute une forêt de frondaisons voisines, un fleurissement d'échos ailleurs, en face, une langue de l'autre côté de la nôtre, nous répondant en parallèle irrégulière et qui fait la nôtre miroiter. Français et italien, feuillage de deux arbres similaires rivaux, deux langues qui résonnent et qui se mirent l'une dans l'autre, s'éclairent de lumière double, en dialogue et en controverse, et se donnent l'une à l'autre leur relief singulier. Enfin, Quatrième langue nourricière, le très très beau patois savoyard. Langue humiliée et victorieuse. Langue qui se venge, qui invente et qui rit. Langue idiote et idiome de la vengeance poétique qui renverse, qui se sort par la vie de toute situation. Langue non pas des manuels, mais des mains, de ceux qui ont des mains et des outils dont ils changent selon la saison. Langue des marcheurs et arpenteurs, langue portant les pas, langue qui sait chaque point du sol et connaît le paysage par cœur, le pouvoir de chaque nom. Pourquoi il n'y a pas d'eau à Niflon? Pourquoi il y a de la boue au Wafieux et un être tordu au Feu Courbe? Pourquoi Piogre et Genève? Et en là par de l'ailé, le bout du monde. Pourquoi on dit Vacheresse, Samoin, Mésinge, Le Plan Rabidolais, Les Pincaos, Champange, Les Ars, Poèze, Outre-Brevon, Darbon, Pertuis, Ireuse, Boège, Brantonne, La Baume, Chaisabois, La Ruppe, Les Bottières, Les Pacots, Les Crapons, Drosailly, La Rasse, Trélachaud, Sétrouzet, Haute-Cisère, Vauverdane, Jambes de Ça, Jambes de Là, Mauny, Esser-Roman, Sèchemouille, Soulpa, Torchebise, Boujaille, Ouattapan. Je pourrais dire plus loin, mais je vais arrêter là.
Ben, ceux qui veulent la suite peuvent lire aussi la Loterie Pierrot, qui est un grand recueil de sobriquets venant tout droit du Chablais, une liste, une très longue liste, mais à chacun de ces noms est attaché un verbe particulier. Et il y a un personnage là-dedans, je ne sais pas si vous en souvenez, parce que je ne sais pas quelle mémoire vous pouvez garder de toute cette foule qui défile dans vos textes, quelle mémoire individuelle pouvez-vous en garder? Je vous pose la question, puis en même temps, je vous donne le nom de ce personnage, c'est Graison Taffu. Graison Taffu qui lime. Son action, à lui, consiste à limer. Il est à la page 29 de la Loterie Pierrot, et je l'ai relevé parce qu'il est tout droit en résonance avec le passage que vous venez de lire à propos de la Hongrie. Vous évoquez en effet en note à propos de Graison Taffu, ceci. Taffu, deux points, la déprime. Le noir, la mélancolie, la bile noire, le bourdon, un état d'âme qui peut mener loin, le Chablais s'inscrit dans un grand arc psychogéographique qui part de Debrecen, s'intensifie à Budapest, gagne Vienne, recouvre l'Autriche, n'épargne ni la Suisse centrale ni la septentrionale, s'étend largement sur le Léman, traverse une grande partie de l'Ain et s'achève dans la Bresse. On s'y suicide bien plus qu'ailleurs, en Europe. Le point culminant de cette dépression, si l'on peut dire, se situe à Sornay, bourgade de la Bresse, à Sornay, au dire des frères Lepilouer, originaires du lieu, une maison sur deux compte son pendu, et chaque sornier, sornien ou sornésien, garde toujours une corde dans le coffre de sa voiture, au cas où.
C'est vrai, tout est vrai. Oui, les frères Lepilouer m'ont dit ça, c'est le record, c'est Sornay, c'est terrifiant, une maison sur deux, oui.
Voilà. Mais donc on retrouve cette...
Mais sans raison, il me disait, enfin j'ai pas mis ça, c'est moi qui ai fait cette note, donc quelqu'un, il y avait une soirée de famille, tout se passait bien, l'anniversaire, puis le père dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai quelque chose à faire à la cave. Il part et il s'est pendu à la cave, c'est ce qu'on appelle le raptus, quoi. Et c'est vrai que oui, non, on en rit, mais c'est vrai qu'il y a quand même un axe. Dans l'alpage, là où je suis, je connais 4 ou 5 pendus. Quand même. Et en Hongrie, je me souviens, lorsque j'ai aménagé l'opérette, fait des coupes pour la Hongrie, il y avait une scène de suicide que je voulais enlever. Et Sophia m'a dit, non, laisse la scène du suicide, ça nous intéresse beaucoup. Très intéressé par le suicide.
Alors, c'est étonnant aussi cette attraction du montagnard que vous êtes pour un pays aussi plat que la Hongrie. Vous expliquez quand même dans le texte que vous venez de lire qu'il y a d'autres espèces de reliefs dans cette étendue. Je ne sais pas s'il n'y a pas une espèce de revers d'envers et d'endroit entre ce pays savoyard et ces grandes plaines hongroises.
Non, mais ce qui se passe aussi, c'est que
mes élucubrations sur l'Europe, l'Europe centrale telle que je la voyais en France, c'est pas totalement faux quand même, en ce sens que les Alpes, c'est un endroit où on sortait beaucoup et on voyageait beaucoup. On partait, on ramenait des clochers à bulbes de Pologne, des recettes de beignets de pommes de terre. Ma femme qui est de Pologne aussi me fait les mêmes. En Pologne, ça s'appelle des latkes, nous on appelle ça des bougnettes. Voilà, c'est exactement. Il y a des oiseaux en bois. Il y a une culture de l'Europe centrale qui commence quand même pour moi réellement à Genève. Et c'est vrai que je me sens d'Europe centrale, ou une culture aussi de la neige. Je me sens curieusement plus, je sais pas le russe, mais je me sens plus à l'étranger à Toulouse qu'à Moscou, parce qu'à Moscou ils ont aussi 6 mois de neige. Donc c'est une conception du temps. Donc est-ce que la culture du temps, la conception du temps n'est pas, dans le fond, fondamentale?
Oui, vous êtes à l'aise dans la zone septentrionale, ou du côté des territoires du Grand Est.
On regarde vers l'Est. C'est la sensation que j'ai, c'est certainement historiquement faux, je ne sais pas, c'est des élucubrations.
Mais ce qui est très intéressant, par-delà ces élucubrations, qui ont quand même aussi l'intérêt de construire toute une généalogie, toute une genèse personnelle, en même temps qu'une genèse collective. Hein. C'est un geste assez courant, ça, dans votre travail, que ces genèses, cette façon de refaire le monde, de le réécrire. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous avez comme trouvé là une porte d'entrée personnelle, biographique ou autobiographique, dans votre rapport au langage et dans votre entente même du langage en tant qu'étrange. C'est-à-dire que vous évoquez une langue maternelle incompréhensible, ce qui est quand même le plus gros des paradoxes. Vous dites une langue en perdition, ma langue étrangère, une langue étrangère que l'on posséderait en propre. Et ça ouvre tout droit sur, je dirais, l'ensemble de votre réflexion sur le langage. Le langage n'est pas pour vous ce qui appartient à l'homme, ça n'est pas ce qui en constitue la propriété, mais c'est plutôt, comme vous le dites, notre matière devant nous. C'est-à-dire que c'est cette idée-là qui me semble l'idée peut-être la plus fondamentale. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord, mais l'idée la plus fondamentale dans votre pensée du langage, c'est qu'il n'est pas quelque chose qui nous appartient. Il est plutôt notre propre étrangeté placée devant nous, l'ombre portée de l'homme, la part obscure de nous-mêmes. Est-ce que j'emploie les mots qu'il faut ? Peut-être pas.
L'image que l'acteur est logophore, que l'acteur porte le langage et porte son corps devant lui, ou porte son corps de langage devant lui, qui est une sorte de déport dans lequel l'acteur n'est pas adhérent à son corps. Il y a une sorte de désadhérence et de portement. Oui. Il y a le portement du corps et le portement du langage qui a lieu au théâtre. C'est une impression fondamentale. Aussi, par exemple, j'ai toujours... Je crois que le langage nous est venu tout d'un coup. Tout d'un coup, et que Adam, tout d'un coup, s'est mis à parler. Et qu'on va au théâtre pour voir ça, voir la vraie scène, contrairement à ce que raconte la linguistique, la philologie, l'anthropologie, etc. On vient revoir dans l'espace 2 syllabes, et on vient s'étonner à nouveau de parler, s'étonner des animaux qui parlent. Et puis j'ai un instant des bêtes communicatives, une sorte de d'étonnement devant aussi devant l'obscurité du langage, devant aussi comme les enfants qui comprennent pas tous les mots, que tout n'est pas transparent. Le langage est très mystérieux, et particulièrement le français est très mystérieux. Particulièrement le français, parce que quand tous les jours je dois regarder quelque chose dans le dictionnaire philologique, les mots disent jamais d'où ils viennent. Je regardais il y a 2 jours martingale. D'où ça sort ? Pourquoi on dit martingale ? Pourquoi est-ce qu'on dit corbillard ? C'est la ville de Corbeil, il paraît. Bon, alors je regarde, j'oublie. Mais que le français cache, il a une énergie qui vient de sa dissimulation. Il dit, parce que l'allemand, l'arabe, l'hébreu, il y a les 3 lettres. En allemand, c'est pas les 3, mais il y a la racine est là. Et le français, il cache ses racines, il disparaît sous une eau. Sous une eau très calme, la Loire, etc., il y a des courants très forts dessous. Donc l'importance pour quelqu'un qui écrit en français de fréquenter un peu d'autres langues. Et c'est vrai que j'étais réellement cancre pendant, mais cancre pendant 15 ans. Alors, il y a un peu de latin qui est entré quand même. Quoi. Mais c'est vrai que c'est fondamental, l'appréhension d'écrire dans le fil de la langue, avec le sentiment philologique quand même. Et cette science de la langue, c'est pas que la science des savants, des étudiants, c'est parfois des gens de la campagne qui disent des choses qui non seulement parlent patois, mais aussi parlent français très très bien. Par exemple, mon voisin à Trécoux, là, cet été, il y avait un problème concret. La cuvette des WC était cassée, elle est un modèle de 1927, est-ce qu'on va retrouver ça? Alors je dis à Aimé, je dis donc, est-ce que tu crois que le plombier Denis Châtelain, dit Denis Tamalais, son surnom, est-ce que tu crois qu'il va retrouver une cuvette comme ça? J'ai peur qu'il ne retrouve pas, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, oh, t'en fais pas, il aura bien ça dans ses archives. Je sais, c'était tellement juste, quelqu'un de la Sorbonne, seul, utiliserait le mot d'archive comme ça. Et puis d'autres trucs aussi qui lui viennent, qui c'est curieux quand même, comme l'école a été fondamentale. Il est né en 36 comme Philippe Solers, mais il est plus abîmé parce qu'il a toujours beaucoup travaillé de ses mains. Donc il est donc il souffre de rhumatisme. Et cet été, alors tout d'un coup, il a eu une expression qui s'est mise que j'avais jamais entendue. Comment ça va, Aimé? Oh, je souffre comme la France sous Colbert, comme Paris sous Colbert. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je souffre comme Paris sous Colbert. C'est venu 5-6 fois, puis après, ça a disparu. Il y a des trucs comme ça qui viennent du profond, et le langage est réminiscent. Le langage nous remonte. Il remonte, et j'ai toujours l'image que le français est un puits, et qu'on a pas affaire à des outils en établi. Je pense quelque chose et j'exprime avec la langue française qui est là, mais que j'ai un puits. Il y a des choses très, très profondes dans le fond du puits, et c'est les mots les plus simples et qui ont l'air de rien qui en savent le plus, comme cet extraordinaire mot de personne en français. Il y a je crois pas d'autre langue où il y a cette ambivalence, et aussi le sentiment que les langues, là où les langues en savent le plus, c'est dans les mots ambivalents, les mots réversibles, aussi parce que c'est dans la réversibilité qu'est l'énergie. Enfin, c'est l'idée dans ma petite physique linguistique personnelle que je me fais, que c'est dans la zone du neutre, du retournement, du point vide, là est la force. Et moi, dans l'écriture des textes, dans le travail avec les acteurs, je cherche les forces.
Il y a cette vision géologique du langage, hein, il y a cette volontiers, vous employez toujours l'idée, enfin, vous employez le mot matière volontiers à propos du langage, mais vous allez plus loin que ça en ayant recours souvent à cette image de la géologie, donc des strates, des plissements, des forces de toute un mouvement très ancien.
Et tout d'un coup, des choses qui s'effondrent tout d'un coup dans le langage, et aussi l'idée, dans le fond, un peu terrifiante, que bon, non seulement que le langage est un outil qu'on utilise pour à telle mauvaise fin, un outil de propagande, etc., et que ça produit que le langage produit des catastrophes historiques, etc., et que la question du langage est fondamentale en politique, mais aussi l'idée que le langage, de son érosion seule, de son effondrement tout seul, va produire des catastrophes historiques. Comme un éboulement, l'éboulement d'une ville, l'engloutissement de Lisbonne, je sais pas quoi. Il y a des choses aussi dans le langage qui se passent et qui créent des choses terrifiantes. Parfois aussi parce qu'il y a une différence ténue entre deux mots. Par exemple, je suis très frappé qu'il y ait si peu de différence dans le son entre islamiste et islamique. C'est excessivement dangereux. C'est très dangereux. Donc l'important, ça, je préfère le mot musulman qui est plus clair, les musulmans, les islamiques. Mais parfois, il y a des glissements, et j'ai l'impression vraiment que des bombardiers décollent parce que des mots ont été prononcés. Au moment de la guerre de Yougoslavie, les bombardiers ont décollé allègrement, les Français aussi, parce qu'il y a eu le mot génocide qui a été lâché. Je ne sais pas ce qui est exactement, mais on lâche un mot, les bombes suivent. Donc, c'est puis je suis très attentif au titre des journaux, à la façon dont les journaux sont titrés. Il y a des choses parfois étonnantes, ou aux publicités. Je me souviens d'allant à Évreux, de la force poétique de la publicité. En allant à Évreux, un camion devant moi, bravo la viande.
C'est extraordinaire, je l'ai gardé, c'est trop beau, je le prends, etc. Ou je ne sais pas, un titre du Monde, par exemple, étonnant, malheureusement, j'aurais dû l'amener, c'est dans mes archives aussi. Au moment où il y avait une femme qui avait été une otage, qui avait été exécutée par des terroristes, etc. Et le Monde a titré, je ne sais plus comment s'appelait cet otage, Margaret, quelque chose. Le Daily Telegraph rend compte sans nuance de l'exécution de Margaret. Je me demande comment est-ce qu'on peut rendre compte avec nuance de l'exécution d'une femme. Enfin, c'est... Donc, quand même, la précision, et j'ai un grand attrait pour le droit et un sens juridique. Vous pouvez me faire lire un contrat, je ne vais pas le signer si je ne comprends pas tout. En tout cas, l'importance du capital du langage autour de nous est d'autant plus, évidemment, aujourd'hui. Enfin, c'est avec Internet, tout ça, mais aussi que c'est dangereux que ça flotte. Donc, si on peut simplement dire attention au langage et attention aux mots, attention, pas un mot pour un autre. Si possible, ou en sachant, etc.
En même temps, vous êtes très méfiant à l'endroit de ce que vous appelez le beau français membré et sabré. Vous avez une vision féminine plutôt de la langue, non ?
Vous
vitupérez volontiers contre.
Oui, non, mais ça,
c'est la langue de bois.
C'est des textes d'une certaine époque, c'est assez ancien. Lettre aux acteurs ou une impression. Oui, c'est ça.
Parce que votre parole est sabre.
J'étais une écrivaine, si vous voulez. Je me sentais écrivain. Et même, je vais vous avouer un péché terrible, mais je crois que je l'ai dit quasiment à personne, mais après tout, pourquoi pas. À une certaine époque, il y a longtemps, je ne supportais pas qu'une femme écrive. C'était un homme qui devait écrire. C'était avoir affaire à un corps de femme, la corps de la langue française, une femme ne devait pas avoir affaire à ce corps-là. Je ne l'ai jamais dit, je n'ai jamais écrit, et je l'ai pensé que la nuit sournoisement, etc. Mais je vous le dis, voilà, on n'a pas que des bonnes pensées. Si je disais ça au Québec, je serais pendu sur l'heure. Non, mais pour dire qu'il y a quelque chose d'exclusif quand on travaille avec le langage, on peut. Et par exemple, j'avais écrit dans, je crois, de Terre des Paroles, le français est la plus belle langue du monde. J'ai reçu une lettre de Bernard Comand qui s'est offusqué de ça, qui m'a dit mais vous êtes un chauvin, vous êtes un nationaliste, c'est pas la plus belle, c'est pas vrai, etc. Je lui ai écouté, si je vous dis ma femme est la plus belle du monde, ça ne veut pas dire qu'elle est objectivement, ça veut dire que j'aime ma femme, je trouve que c'est la plus belle du monde. C'est ma langue, je trouve que c'est la plus belle langue du monde, le français. Voilà, mais il faut aussi, et c'est important, l'amour de la langue, c'est quand même ça qui nous fait écrire.
Alors, il y a amour de la langue, en même temps, il y a stupeur quant à la langue. Vous dites, on devient écrivain parce que le langage nous frappe de stupeur. Et l'écriture, je reprends certains motifs que vous développez, par exemple, dans Devant la parole, l'écriture, elle serait tout le contraire de la communication. L'écriture s'organise autour d'un bloc de silence. Hein, il y a cette idée d'une stupeur du langage, et puis en même temps que le langage nous a rendu, c'est un autre motif que je trouve souvent dans vos pages, le langage nous a rendu inadhérents au monde, comme si finalement Adam, en commençant de parler, était devenu inadhérent au monde, séparé, nous ne pouvons plus être agréés comme plantes en quelque sorte,
Michaud. Les animaux sont les adhérents profonds.
Les animaux sont
les adhérents fondamentalement à l'herbe verte, à l'heure de la traite, à l'étable. Ils sont adhérents tout le temps. Et nous, on est quand même on est fait pour désadhérer.
Nous désadhérons à cause du langage.
Donc, il aide à décoller quand même.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il nous rend étrangers en même temps qu'il nous.
Oui.
Je ne sais pas. Je voudrais laisser aussi la possibilité aux uns et aux autres de poser des questions, de ne pas garder simplement quelques minutes à la fin. Donc si vous le souhaitez dès à présent, puisqu'on a un petit blanc là, profitez-en.
Je voudrais juste reprendre une citation de Jean-Marc Sourdillon, le frère d'Agnès Sourdillon, que vous connaissez, la comédienne. C'était mon professeur de lettres en Hippocagne, il nous avait donné sa définition de la littérature, et je pense que ça s'applique très bien à votre travail, notamment sur le langage. Il disait « La littérature est une parole qui écoute ». J'aimerais avoir votre avis sur cette parole de Jean-Marc Sourdillon.
C'est une belle parole de Jean-Marc Sourdillon.
Ça m'a fait penser immédiatement à quelque chose que je dis tout le temps aux acteurs, que l'organe des acteurs, ce n'est pas la bouche, c'est l'oreille. Que les acteurs doivent entendre le langage dans la rue, ils doivent entendre parler. Et aussi, ça me fait penser que le plus extraordinaire au théâtre, ce n'est pas qu'il y en ait 8 qui parlent, c'est qu'il y en ait 200 qui se taisent en face. Il y a une sorte de... Ils peuvent parler parce que vous leur donnez la parole. Il y a une sorte de retrait, de don renversé de la parole et du... Enfin non, c'est beau ça, la phrase de Sourdillon, parce que aussi je pense que le travail consiste à écouter la langue, et écouter notre langue. Et parfois j'ai l'impression que le travail consiste à prendre un mot, écouter dedans, et que ce mot, on le casse et il contient une scène, et qu'on le casse encore et il contient un drame et il contient tout un livre. Il faut écouter à l'intérieur des mots. L'impression aussi que les mots en savent plus que nous.
Si je peux dire un mot là-dessus, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que le théâtre des paroles commence par cette phrase, j'écris à l'oreille.
Par les oreilles.
Par les oreilles, pardon. Et puis, dans la loterie Pierrot, vous reprenez à la fin un texte qui est un extrait de la préface au dictionnaire du Chablaisien, et vous dites, l'organe du médecin, c'est l'oreille. Autrement dit, l'organe du médecin est l'organe de l'écrivain. Bah, bon, il y a la main, évidemment.
Du temps, vous avez des stéthoscopes, oui.
Voilà. Non, mais cette écoute...
Écouter. Que l'écoute, c'est peut-être que tout le travail artistique, c'est d'écouter. Par exemple, le travail du metteur en scène, c'est d'écouter, d'écouter ce qui se passe, d'être là, attentif, et d'intervenir peu, dans le fond.
Oui. Vous citiez tout à l'heure aussi des publicités que vous avez vues, des titres de journaux que vous avez lus, mais il y a, dans tout ce que vous entendez, toutes ces injonctions, toutes ces paroles de toutes sortes. Bon, par exemple, c'est à la page, je ne sais plus, dans le théâtre des paroles, vous citez quantité de formules qui semblent constituer, je ne retrouve plus ma référence, c'est dommage, j'en suis navré, j'avais noté page 48, mais ce n'est pas à la page 48, donc tant pis. Non, page 78. Voilà, je voudrais quand même lire ce petit extrait. Vous dites, j'ai écrit par les oreilles, entouré de slogans du temps au temps. Voici les slogans. Récite l'expérience, récite un monde véloce, mâchure-toi d'encre, entre au trou de boxe, encore pire, continue à figurer. Récite, réciter, c'est un verbe qui revient souvent. Réciter la liste de, dites la liste de. C'est une injonction qui est souvent répétée dans les pièces même.
Oui, là, ce passage fait allusion à la façon de travailler, où c'est vrai, parallèlement au travail d'écriture centrale, il y a eu presque toujours un journal à côté,
oui,
avec des observations des phases du travail, comme du buffet marqué soigneusement, j'ai acheté 3 pots de blanc, des feuilles de telle dimension, etc. Voilà, de tenir un journal, comme quelqu'un aussi qui fait une marche en montagne, qui est un journal de bord. Mais aussi, il y a des slogans qui viennent des choses que je ne comprends pas. Je les écris, je les comprends qu'après, ou je les comprends jamais. Donc, c'est peut-être des slogans hermétiques, des choses, des impératifs, des choses. Et puis, mais ce journal qui se fait en même temps, il faut qu'il dépérisse. Il y a un moment, il faut qu'il disparaisse. Mais parfois, il disparaît pas. Il ne disparaît pas tout de suite. Il faut tout d'un coup que toute la force soit dans la chose principale et qu'il y ait moins de rêverie sur la construction du livre. Mais c'est vrai qu'il y a toute une part de rêverie aussi, de rêverie géométrique sur le livre au départ. Il y a tout un... je ne sais pas comment dire. Mais j'aime les livres dont on peut faire des schémas. Fasciné par la Divine Comédie avec le schéma des enfers, fasciné par la composition musicale du livre pouvant s'afficher au mur. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, dans le travail, au début j'écris à la main, etc. Puis à un certain moment, j'affiche le livre en tout petit caractère sur les murs et je me promène dans le manuscrit au mur épinglé. Et je fait de la littérature pariétale. C'est comme ça que mais même maintenant, même le texte sur le hongrois, je vois s'il est debout, que s'il est affiché. Et il y a eu quelque chose de très beau qui s'est passé à Thessalonique. Il y avait des acteurs qui travaillaient avec Louisa Mitsakou sur un de mes textes, et moi je ne sais pas le grec, et j'entendais tout le temps Kimeno par-ci, Kimeno par-là, Kimeno par-là. Bon, alors à la fin je dis, j'ai entendu tout le temps Kimeno, qu'est-ce que c'est que ce mot, c'est quoi Kimeno? Elle m'a dit, c'est le texte, et étymologiquement, en grec, c'est le gisant, c'est celui qui repose. Alors, c'est tout à fait extraordinaire pour le travail de l'acteur de penser qu'il y a le livre qui gît et que l'acteur relève le livre. Il y a érection, relèvement, relevaille, portement, résurrection du livre qui est mort lorsque personne ne va lui donner souffle. Mm-hmm. C'était très, très beau ce mot que c'était le gisant. Mm-hmm. Le texte, c'est le gisant. Donc le travail, dans le fond, de résurrection de l'acteur. Moi, c'est pour ça que je ne fais aucune différence entre l'acteur et le lecteur, parce que je pense aussi que vous ouvrez un livre, même si on ne vous entend pas lire, vous lisez tout seul, tout d'un coup, vous reprêtez souffle à un livre qui est mort pour tout le monde, et vous êtes... Et parfois, j'ai une joie singulière à me dire, tiens, je suis le seul au monde à lire en ce moment Méliton de Sardes, par exemple. Mais peut-être que je ne suis pas le seul, mais redonner vie à une chose que tout le monde a oubliée. Ou Ephrem le Syrien, je ne sais pas quoi. Mais parfois, j'ai une joie d'aller lire des choses oubliées par tout le monde.
Il y a ce double mouvement chez vous, mettre bas, redresser. Il faut mettre bas ou mettre à bas. Mettre bas dans le sens aussi,
oui.
Faire naître.
Hein. L'idée fondamentale du passage par la mort dans la respiration. Parmi les sensations organiques de base, enfin, je ne sais pas, chacun est construit autour de choses simples. L'idée qu'on passe par la mort toutes les 2 minutes et demie. Il y a une petite traversée de la... Que la respiration est une résurrection.
Oui, les micro-apnées...
Voilà, alors je ne sais pas, mais voilà. Mais il y a cette sensation aussi que tout le travail respiratoire de l'acteur, de l'écrivain, est tout à fait fondamental. Et aussi tenir les gens par le souffle, par le... Et qu'on vienne aussi les acteurs, je leur dis souvent, voilà, je leur dis à tous, tout le temps, chaque fois, la première fois que je les vois, il faut, comme on dirait un nageur de crawl, tu ne dois pas prendre ça d'eau, tu dois prendre une brassée de textes plus longue. Dans mes textes, il faut, parce qu'aussi les gens vont être heureux et vivifiés de respirer plus longuement que d'habitude. Va prendre la phrase jusqu'au bout. Ne morcelle pas la phrase. Et aussi, donne la phrase dans son énigme. Pas faire l'intelligent et pas expliquer. Ça détruit totalement tous les textes si on les explique par une lecture intelligente. Il y a une certaine idiotie de l'acteur. Mais il faut, bien entendu, qu'il lise beaucoup. Et la plupart des acteurs sont très intelligents, très cultivés, etc. Mais il y a une sorte, dans le fond, de passivité. Ils doivent aussi subir le texte sans le comprendre. Il faut qu'ils soient aussi des idiots.
Oui, on entend ça dans votre façon de lire. Je veux dire. Je veux dire cette volonté de déclamer un peu parfois comme ça, de façon presque monocorde, comme un discours fait par un officier public sur la place de la mairie. Et s'adressant aux façades, finalement, des maisons, après avoir battu le tambour, quelque chose comme ça. Cette façon de jeter la parole dans le vide, comme si la parole elle-même devait avoir quelque chose d'un peu idiot, fondamentalement, foncièrement.
Mais si on écoute les enregistrements les plus anciens qu'on ait des poètes français qui ont enregistré des textes, ce qui frappe, c'est cette platitude, c'est Apollinaire, par exemple,
ou
Sandra, Je jette mes chaussures par-dessus bord et je voudrais courir jusqu'à vous, avec l'accent de chaud de fond, etc. Oui. C'est que le français est plat. Le français, il faut le restituer son architecture.
Je crois qu'il y avait une question.
Oui. Vous avez dit très justement que notre langue se dégradait et que cette dégradation allait nous conduire à des catastrophes. Mais est-ce que vous avez fait une analyse théorique de cette situation? Ou envisagez-vous de le faire?
Question pour la tribune de l'ONU. Hein, c'est pour le, ouais, c'est... Non, mais je pense que les questions de langue sont fondamentales aussi pour la politique. Pour la, je sais pas, il y a une grande enquête là sur l'identité française, une enquête un peu stupide, mais une chose dont personne ne parle, c'est la langue, c'est la connaissance et l'amour d'une langue commune. J'étais frappé au Brésil, je voyais, il y a des gens des favelas qu'on a rencontrés qui sont venus jouer dans notre spectacle. Ils aiment leur langue, le brésilien. Et en France, il y a peut-être un risque que les langues se séparent, qu'on ne parle plus la même langue. Je vous dis ça comme ça. Et donc, quand il n'y a pas le langage entre deux personnes, il peut y avoir la violence assez rapidement. Et moi, je vois ça très bien en Savoie, parce que les Savoyards sont parfois pas commodes. Mais ils tuaient pour un rien il y a 50 ans, etc. Mais je vois comme tout d'un coup, je prononce un mot qui... légèrement un peu, et il y a une reconnaissance par la langue et on sait qu'on va pouvoir parler. Mais le danger, ce serait que de rencontrer des gens et on ne sait pas si on va pouvoir se parler et s'en sortir par le langage. Parce que le langage est salvateur, le verbe, donc nous sauve. Je ne sais pas comment dire, peut-être, enfin, on pourrait dire que, je ne sais pas, le langage nous perd et la parole nous sauve. Enfin, il y a quelque chose comme ça, que c'est à la fois une prison, le lieu de la propagande, le langage, le lieu du penser commun. Et il y a un mouvement à l'intérieur qui nous sauve. Et c'est peut-être le mouvement que la pensée brûle les mots, que la pensée ne fait pas des mots des idoles, qu'elle les combuste, qu'elle les brûle, qu'ils deviennent ardents et qui sont pris dans un mouvement, mais qui ne sont plus des slogans figés, des choses figées. Donc partout, lutter contre le côté du mouvement et de la respiration. Enfin, je sais pas si c'est ça que j'essaierai de réfléchir, mais pas adorer les mots. Les mots passent. Donc c'est aussi c'est ça que voulait dire ce titre, l'envers de l'esprit, qui est un truc assez compliqué. Comme ça. C'est bizarre, l'envers de l'esprit. Mais ça veut dire que l'esprit respire. Ça veut dire que l'esprit est un... Moi, je me fais l'image de respiration toujours avec le chiffre 8. Peut-être avec les images qu'on emprunte à l'école, avec le sang qui est bleu, rouge et qui s'inverse. Mais j'ai toujours l'idée qu'il y a le 8 respirant de la respiration et la respiration. Et la... Donc l'esprit respire, c'est-à-dire il faut que les choses respirent. Il faut que... re-respirer tout. Enfin, je ne sais pas. Parce qu'on est naturellement idolâtre.
Tout à l'heure, en vous écoutant, des mots de René Char dans le chant de la Balandrane me revenaient. Il dit « Les mots savent de nous ce que nous ignorons d'eux ». Et d'autre part, je trouve que vous avez eu beaucoup de chance d'entendre une langue maternelle incompréhensible, mais qui était chantée. Et il me semble que peut-être cette expérience fondamentale vous permet de placer devant nous votre étrangeté, aussi bien dans votre travail d'écrivain que d'acteur.
Bonjour, j'ai une question. J'ai malheureusement fait une école de commerce, qui n'a pas été un commerce agréable, et j'ai vu là-bas mes condisciples, en un seul mot, qui étaient vraiment sclérosés par l'espèce de langage marketing, financier, etc. Et ma question, en fait, c'est est-ce que vous pensez que l'importance aujourd'hui de notre société du candidaton pourrait justement scléroser le langage?
Oui, je pense que la sclérose, l'ossification, l'arthrose du langage, elle existe beaucoup autour de nous aujourd'hui. Il y a le célèbre exemple de Klemperer, le livre de Klemperer sur la LTI, là, qui développe le langage du Troisième Reich. Et quelqu'un, malheureusement, j'ai oublié son nom, je crois.
Éric Azan.
Voilà. Éric Azan a écrit une chose sur la LTI de la Ve République. Sur la langue ossifiée. Et c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé, très, très intéressant, sur tout ce qui est autour de nous devient des peaux mortes. du langage et avec, et on pense plus qu'avec les peaux mortes. Alors si on peut secouer un peu les peaux mortes et remettre ça en mouvement, voilà, c'est totalement essentiel. Mais ça, et puisque votre question, la poésie, pourquoi faire ? Je sais pas. Enfin, en tout cas, la lecture, le théâtre, ou parler, ou entendre, reprendre conscience de l'organicité et de la vie du langage, et moi je me rapproche toujours le langage à la nature. Je pense qu'il n'est pas simplement un instrument devant nous. Et la lumière du corps se terminait sur une phrase mystérieuse, et j'aurais aimé qu'un jour quelqu'un vienne me demander des explications, mais je ne pourrais pas en donner. La philologie ouvre ses portes sur la nature. Voilà. Parce que j'ai l'impression, parmi que si vous voyez comment fonctionne le langage, comment il fonctionne avec du vide, avec un mot qui manque, avec le temps réversible à l'intérieur d'une phrase, que ça nous apprend quelque chose sur la matière même, qui est aussi creuse, aussi pleine de vide que le langage. Et c'est évidemment tout à fait extraordinaire que lorsque les physiciens ont cherché des particules absolument invisibles, ils sont finalement cherché un mot chez Finnegan Wake, chez Joyce, les quarks, ils sont allés chercher les quarks. Mais ça, que on peut voir le monde dans une phrase. L'idée que j'ai à faire à la matière, je ne suis pas physicien du tout, je suis même nul en sciences physiques, tout ça, en maths, mais j'ai l'impression que je suis avec la réalité de la matière, ou avec une figure de la matière, le langage comme figure de la matière. Parce qu'en même temps, c'est un champ de force. Une phrase, un livre, c'est un champ de force avec des pôles, des renversements, un temps réversible, qu'il n'y a pas qu'en allemand que le dernier mot donne du sens au premier mot de la phrase. En français aussi, on voit très bien au théâtre qu'un mot retentit ou qu'une phrase entendue à la fin de la pièce retentit sur tout ce que vous avez entendu depuis le début. Enfin, vous voyez, cette espèce de réapprendre la physique du langage dans une salle de théâtre en particulier, parce que à ce moment-là, le langage se voit. On voit ses effets.
Voir le monde dans une phrase, à propos de la dégradation de la langue française et du slogan, je me suis trouvée il y a quelque temps dans une manifestation à Paris, je ne savais pas de quoi il retournait, et il y avait sous mes yeux une immense banderole qui faisait toute la largeur de la route, portée par plusieurs personnes dans la foule, et je me suis dit, ben, pour savoir de quoi il en retourne, il faut lire, et j'ai lu la phrase, c'était écrit en lettres immenses, « Le capitalisme, c'est le conflit de classe ». Et voilà, et à la... À la façon du génocide, je me suis demandé qu'est-ce que cette phrase allait amener dans la ville et dans le monde.
Ça fait réfléchir, cette phrase. Conflit de classe. Oui.
Oui, Valère, c'est juste un petit mot sur cette identité qui, effectivement, est un mot très malheureux et qui nous pousse du côté de l'ossification et de l'idolâtrie. Et je pensais, en écoutant ce débat, enfin, qui récurrent sur l'identité française, à un mot d'un philosophe dont on ne parle jamais, qui définissait la France ainsi: la France, c'est le français quand il est bien écrit. Et ce philosophe, c'est Napoléon. Et effectivement, quand il est bien écrit, c'est-à-dire quand il est écrit selon sa logique, tout simplement. Et cette logique dont tu parlais, c'est-à-dire cette logique à la fois étale et violente souterrainement.
À propos d'écriture, je voudrais rebondir justement sur ce mot. Tout à l'heure, vous avez distingué le langage qui nous perd, la parole qui nous sauve. Et j'avais envie justement d'introduire là, rapidement, le troisième terme, l'écriture. En rappelant que vous avez fait vos débuts dans les années 70, dans une certaine époque où on parlait beaucoup d'écriture. Et on trouve votre nom, par exemple, au sommaire de la revue TXT. Et j'ai un numéro à la maison, sur la couverture duquel il est écrit « La poésie, c'est-à-dire l'écriture ». Alors, je voulais justement vous questionner à ce propos. On a très, très rapidement évoqué le mot « poésie » tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait en redire quelque chose de plus ? Est-ce que la poésie, c'est pour vous l'écriture ? Est-ce que vous adhérez à cette formule ? Il n'y a peut-être pas adhéré d'ailleurs à la formule du tout. Elle est peut-être simplement partielle ou partiale. Ou est-ce que pour vous la poésie, c'est plutôt la parole ?
Comment vous la placez ou quelle idée vous en faites? À un moment, je crois que vous employez cette formule de l'alcool d'homme, que j'aime bien. La poésie, ce serait de l'alcool d'homme. Je ne sais plus si vous l'employez d'ailleurs à propos de...
Oui, c'est vrai que c'est un mot que j'ai quasiment jamais employé, peut-être deux fois. Écriture non plus, pas tellement, littérature non plus, etc.
Non, il y a parole.
Mais non, c'est vrai que... Non, alors, poésie, alors moi, je pense à... Je pensais à, en allemand, c'est Dichtung, ce qui veut dire, je crois, épais, dense. Donc, c'est du langage plus dense, comme oui. s'il y a du H2O et du H3-8. Et du, oui. l'idée qu'il y a un langage dense, mm-hmm. qu'il y a un langage étal, et un langage... De ce point de vue, bien que ce soit des mots que je n'emploie jamais, on pourrait dire peut-être que le théâtre que je fais est peut-être un théâtre poétique, en ce sens, où c'est autre chose que le temps romanesque. Parce que peut-être le romanesque a un peu envahi le théâtre, le temps étale. Et donc, il y a l'expérience d'un temps à figure, de temps à déroulement de figure et d'un temps à pluralité. Mmh. Voilà. Mais aussi, ça ne tient pas très longtemps, puisque, par exemple, Ulysse, c'est tout à fait un endroit plein de figures, et c'est un roman poétique, et c'est des classifications pas très heureuses. Mais en tout cas, le mot... moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand même que la littérature française, que la séparation entre la littérature orale et l'écrit s'est faite assez tard. Moi, j'étais très frappé de voir que Rousseau, que j'aime beaucoup, parle de la Nouvelle Héloïse et dit « telle partie de la Nouvelle Héloïse est un chef-d'œuvre de diction ». Je trouve ça extraordinaire que Rousseau dise encore ça au XVIIIe siècle. Là, je lis beaucoup Bossuet en ce moment, qui est l'énergie suprême dans la langue française. Quand on est déprimé comme par l'arc dépressif de Debrecen, et pour reprendre des forces, il faut lire une page de La Fontaine ou un bout de Bossuet, et tout de suite ça va mieux, ça remet les verbes en place. Donc c'est extraordinaire aussi que cette littérature du XVIIe soit grandement une littérature orale quand même, non seulement les auteurs de théâtre, mais les auteurs de la chair, et que la chair et cette musculature extraordinaire qui est dans Bossuet, c'est quelque chose, je regarde comme un athlète qui, je vois ses muscles, c'est magnifique, et j'ai la chance d'avoir 15 pages manuscrites de Bossuet que j'ai un jour échangé contre un tableau à quelqu'un, et c'est presque illisible, mais c'est très beau parce qu'il coupe sa page en deux, et il y a vraiment une écriture sanguine d'un côté, comme ça, vraiment, on voit que c'est... On a souvent une idée très très fausse du XVIIe siècle, qui est l'époque de l'oralité et de la pleine vigueur de notre langue.
L'âge de l'éloquence.
Oui, il y a de l'éloquence simple. Bossuet, c'est pas en berlificoté, c'est complètement... Il y a beaucoup plus d'imparfaits du subjonctif chez Jean Daniel que chez Bossuet. Non, mais c'est vrai, c'est la simplicité qui frappe tout le temps. Et comme ça se termine simplement, comme c'est... Et quand même aussi, moi, j'ai découvert récemment que sa pensée est extraordinaire. Parce que j'ai lu, justement, le panégyrique sur Saint-François de Sales, le texte sur Saint-Paul, c'est très étonnant, comme c'est pas simplement quelqu'un qui fait du beau français, qui a emprisonné Madame Guyon, etc., mais Saint-Paul va au cœur de Saint-Paul, c'est parce que je suis faible que je suis puissant. Je ne sais plus comment c'est dans la Bible exactement, mais c'est vraiment le cœur de Saint-Paul et le cœur renversant de la Bible, qui se trouve aussi dans les psaumes.
Alors on pourrait évoquer ce chapitre du rapport au religieux. Je ne sais pas, il est tard, c'est peut-être un trop vaste sujet, mais c'est quelque chose qui a beaucoup...
C'est un sujet que je n'aime pas aborder, par exemple dans les rencontres avec le public, parce que c'est très délicat et...
Mais
il y a une névrose particulière en France, les gens ne supportent pas. En Italie, en Allemagne, on peut parler, la culture biblique est là, mais en France, il y a une... On en parlait l'autre jour en sortant, mais c'est pas pour vous que je dis ça, mais on parlait en sortant. C'est extraordinaire comme les gens que je rencontre, j'en ai 3, 4, 5 par semaine, font profession de foi d'athéisme alors que je leur ai rien demandé. Ah, mais bien entendu, ou l'autre jour, je sais pas, Catherine Clément dit à la radio que son musicien préféré, c'est Bach. Elle ajoute bien entendu tout. Mais bien entendu, je ne crois pas à toutes ces bêtises, etc. Enfin, voilà. Voilà. Les gens, ils sentent, il faut qu'ils se gardent, qu'ils se préservent. C'est extrêmement français. Pour moi, c'est tout à fait... C'est pas du tout balkanique.
Mais vous...
Au sens enfantin du terme.
Oui. Vous rappelez volontiers que les quatre lettres du mot « Dieu » sont l'anagramme du mot « vide » et finalement ce que vous... Vous assumez d'une certaine manière, c'est ce face-à-face avec le vide, cette interrogation. Vous ne le balayez pas
dans l'acte inconnu qu'on a joué à Avignon et ailleurs. À un moment, Dominique Pinon, la scène était tout à fait calmée, il y avait juste quelques mots, et il était assis sur une chaise et il disait à Mirto Procopiou, une phrase d'acte inconnu, il y a si tu veux bien, comme les latins, ne pas distinguer le U du V, il y a une anagramme dans notre langue du mot Dieu, c'est le mot vide. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous jouez ça à la colline, au théâtre de la colline, tout le monde, la moitié de la salle, les trois quarts, ricanent. Ah oui, Dieu n'existe pas, le vide, bien sûr. Et on a joué ça à Avignon, le père Chave, qui est quelqu'un d'une figure très, très, un ami de Gérard Philippe, m'a dit, quand j'ai entendu la phrase sur Dieu et le vide, je suis entré en contemplation. Donc c'est très très beau, c'est l'ambivalence et la liberté de chacun face à un texte et du théâtre aussi. Et à la Comédie Française, il y avait une scène qui représentait plus ou moins ou qui caricaturait plus ou moins la Sainte Seine, où il y avait plus ou moins 12 acteurs qui étaient là. Une partie de la salle ricanait, était rassurée parce qu'on était entraté, tout va bien, etc. Et le père Guggenheim, un ami proche du cardinal Lustiger que j'ai rencontré par la suite, m'a dit, quand j'ai vu cette scène, où donc tout le monde ricanait, j'ai pleuré tout du long. Et ça, c'est la chose la plus belle au théâtre, c'est que vous pleurez, l'autre rit, mais on n'est pas un troupeau. Le public n'est pas un troupeau. Ce sont des individus, spectateurs, en face du mystère et de l'énergie du langage, et ils prennent ça comme ils prennent ça à leur façon.
Ils reçoivent les flèches.
Voilà. Rien, l'émotion n'est pas dictée. Il n'y a pas d'émotion obligatoire.
Moi, j'ai une question un peu annexe. Vous avez écrit un texte sur Rabelais dans Chaos, enfin, qui s'appelle Chaos. Et je voulais juste vous demander, par curiosité, je sais qu'il y a eu plusieurs adaptations théâtrales un peu grandes guignolesques de Rabelais, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est notamment les grandes listes et enfin, la langue rablaisienne se prête très très bien à l'oralité, à une mise en théâtre un peu que dans la lignée de votre travail à vous?
Ben oui, c'est vrai qu'il y a eu, je ne sais pas, et Claude Bugeval a fait un Rabelais il n'y a pas très longtemps. Avant, il y a eu un Rabelais de Barrault qui jouait dans, non pas, que j'avais vu. Et avant, je crois qu'il y a des adaptations de Jarry, mais je ne les connais pas. Et c'est vrai que c'est pas... Maréchal a dû faire quelque chose sur Rabelais. Je ne sais pas. Oui, c'est vraiment magnifique, Rabelais. Pourquoi ce n'est pas plus souvent en théâtre, je ne sais pas. Il faudrait peut-être regarder, la première chose, c'est de regarder ce qu'a fait Jarry. Parce que peut-être là, il y a des savants, mais partir de... Parce que ce n'est pas rien de faire une adaptation de Rabelais, quand même.
Bien, je crois que comme nous devons nous arrêter, on va terminer sur cette évocation rapide de Rabelais. Merci beaucoup,
Alain Moyna.